buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. 400 exécutions depuis l'arrivée au pouvoir du président Alexandre Loukachenko en 1994. La République de Biélorussie aurait exécuté près de 400 détenus, dont 4 l'année dernière. Ce n'est qu'une estimation, tant la mise en œuvre de cette sentence est opaque. La date précise de l'exécution n'est pas rendue publique, les lieux de l'inhumation des corps ne sont pas communiqués et peu d'effets personnels sont restitués aux familles. Des ONG tentent d'informer la population sur ces exécutions que beaucoup ignorent. C'est un reportage de Roman Collat.
Coincée entre un casino, deux ambassades et un hôtel, la vieille prison de Minsk est à peine visible. C'est pourtant ici, au cœur de la capitale biélorusse, que sont pratiquées les dernières mises à mort légales en Europe. Les condamnés, les hommes reconnus coupables de meurtre, sont placés en isolement. Ils ne connaissent pas à l'avance la date de leur exécution. Il y a 5 ans, Lubov Kovalieva a perdu son fils, Vladislav. Avec un autre homme, il a été condamné à mort pour une série d'attentats. Dans un pays où la justice est soumise à l'exécutif, beaucoup estiment que le procès était monté de toutes pièces par le pouvoir, en difficulté à l'époque, face à une crise économique majeure et un mouvement de contestation. Lubov, elle, est convaincue de l'innocence de son fils.
Le président Loukachenko a dit dès le premier jour qu'il fallait les exécuter, qu'ils étaient coupables. De fait, il les a désignés.
Pendant les 9 mois de procédure, Lubov n'a vu son fils qu'une 40aine de minutes. Il a été exécuté en un temps record, 4 mois seulement après la décision finale de la Cour suprême. Son corps, comme tous ceux des condamnés à mort, n'a pas été rendu à la famille.
Le deuil ne se fera jamais. C'était mon enfant. Je l'ai mis au monde. On dit que le temps soigne, mais non.
Andrei Palouda, de l'ONG Vesna, est le coordinateur de la campagne contre la peine de mort en Biélorussie. Pour lui, ces méthodes ne diffèrent pas de celles appliquées du temps de l'Union soviétique.
Ils agissent, ces fusils, comme le NKVD. À l'époque, c'était pour cacher les répressions massives et le fait qu'ils ne rendraient pas les corps.
La Biélorussie n'étant pas membre du Conseil de l'Europe, le droit européen n'a aucune prise sur son système juridique. Minsk ignore par ailleurs toutes les recommandations de l'ONU sur cette question. La peine de mort permet au pays de souffler le chaud et le froid sur ses relations avec l'Occident.
Dès que les relations se tendent avec la Russie, la rhétorique des représentants du pouvoir affirme qu'il est temps d'abolir la peine de mort. Mais dès que les relations se dégradent avec l'Ouest, ou que cela va mieux avec la Russie, la question disparaît de l'ordre du jour.
Dans l'espace public biélorusse, le sujet est très peu abordé. Tania Mastikina, une ancienne journaliste de la télévision d'État, a quitté son emploi pour défendre les droits de l'homme. La jeune femme de 28 ans milite pour l'abolition.
Quand j'ai appris que la peine de mort existait dans mon pays, ça a été un choc. Cette information n'est pas confidentielle, mais personne ne la diffuse. Personne n'en parle à l'école. C'est un trou noir pour les gens.
L'ONG Vesna tente coûte que coûte de sensibiliser l'opinion. Ce soir, une projection est organisée à 100 km au sud de Minsk. Au programme, le film « 12 hommes en colère » de Sidney Lumet, doublé en russe. Une 15aine de personnes a pris place dans un restaurant kitsch pour le thème des gladiateurs. La salle a été louée pour l'occasion. Le film touche à sa fin. Après une pause et quelques tasses de thé, Andrei Palouda lance la discussion.
Nous souhaiterions savoir ce que vous en avez pensé et si vous voyez des parallèles entre ce film et la peine de mort dans notre pays.
Moi, je sais que c'est quelque chose de mal, mais je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable. C'est le système qui agit, pas moi.
Dans tous les cas, les condamnations à mort sont décidées au tribunal au nom des citoyens de la Biélorussie. Dans une certaine mesure, nous participons tous passivement.
Mais notre système est stupide. Chez nous, c'est différent. La justice n'est pas achevée.
Alors que le débat se termine, un homme handicapé, muet jusqu'à présent, lève la main pour prendre la parole.
Si vous voulez abolir la peine de mort, il faut changer le pouvoir. Tant qu'il y aura de la racaille sur le trône, la peine de mort restera en vigueur.
En 23 ans au pouvoir, le président Loukachenko n'aura amnistié qu'une seule personne. C'est pourquoi il y a très peu de chances pour que les 2 détenus actuellement dans le couloir de la mort puissent y échapper.
Bonne soirée, Madame la Présidente.
Un appel aux dons qui se retourne contre le chef de l'État sortant en République tchèque. Miloš Zeman et son équipe ont ouvert un compte pour le financement de leur campagne électorale. Ils n'ont récolté que des cacahuètes, une bordée d'injures et des ennuis avec la banque, Alexis Rosenzweig.
Un chef de l'État surendetté. Cela aurait pu être rapidement le cas si la banque n'avait pas fait un geste commercial pour sortir Miloš Zeman d'un potentiel gouffre financier. Candidat à sa propre réélection en janvier prochain, le président tchèque avait opté, comme ses challengers, pour un compte bancaire transparent afin de recevoir des dons pour sa campagne. Mais s'il jouit toujours d'un assez fort soutien populaire, Miloš Zeman a aussi ses détracteurs et féroces critiques. Exaspéré par 5 années d'un premier mandat controversé, choqué par son langage de charretier et gêné par ses prises de position jugées plus que dociles envers Moscou et Pékin. Certains ont donc commencé à faire des dons de moins d'un centime, avec dans l'objet du virement des messages comme « va t'acheter un cendrier de l'agnole », en référence à son goût prononcé pour le tabac et l'alcool, ou encore « tiens Miloš pour ta retraite » et « tiens Miloš pour boire un coup avec Donald », suite à ses multiples déclarations de soutien au président américain. D'autres ont trouvé la faille en faisant ces très modestes virements en euros, ce qui entraîne des frais bancaires assez exorbitants pour le commun des mortels dans ce pays dont la couronne reste pour l'instant la monnaie nationale. Finalement, ces frais ne seront donc pas réclamés au chef de l'État, mais le compte n'est pas bon pour autant. À peine l'équivalent de 15 000 euros récoltés en un mois, c'est 30 fois moins que la somme réunie par son principal adversaire Jiří Drahoš, ancien directeur de l'Académie des sciences et nouveau venu en politique.
Les jeunes
européens.
La chronique.
Bonjour F. Minot.
Bonjour Laurent.
Alors, eux ne sont pas européens, peut-être aspirent-ils à le devenir. En tout cas, c'est en Europe qu'ils viennent chercher refuge. Deux agences de l'Organisation des Nations Unies viennent de publier un rapport dans lequel elles s'inquiètent des conditions des jeunes migrants durant leur périple. En cause, les abus dont ils seraient victimes, Eve.
Non, ils n'ont pas 18 ans, ils rêvent d'Europe et tentent par tous les moyens de la rejoindre aux côtés d'adultes qui, comme eux, risquent tout pour quitter leur pays. Ils sont particulièrement vulnérables et leur cas ne fait pas exception aux abus en tout genre, bien au contraire. Ces deux agences de l'ONU, que sont l'UNICEF, spécialiste des droits de l'enfant, et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, tirent la sonnette d'alarme dans un rapport publié conjointement hier, car ces jeunes particulièrement vulnérables, donc, sont en première ligne des trafics.
Et les experts s'inquiètent notamment du sort d'une partie de ces jeunes migrants.
Oui, les plus concernés par les abus seraient d'ailleurs les enfants et les jeunes originaires d'Afrique subsaharienne qui empruntent la route libyenne pour rejoindre la Méditerranée. D'abord parce que c'est l'une des routes les plus dangereuses pour rejoindre le nord de l'Afrique. Souvent victimes de racisme, en plus du reste, leur situation est exploitée par les passeurs, bien sûr, qui n'hésitent pas à en tirer profit malgré leur jeune âge. Après avoir épluché plus de 22 000 témoignages, dont 11 000 directement délivrés par des jeunes et des enfants, alors qu'ils traversaient la Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Slovénie ou la Macédoine, les auteurs du rapport évaluent à environ 77% la part de jeunes mineurs victimes d'abus de trafic, assimilables au trafic d'êtres humains, mais aussi de coups et de discrimination.
Alors, le rapport est même assez précis et cela fait froid dans le dos.
Hier, la directrice de l'UNICEF à Bruxelles, Sandy Blanchet, a rappelé lors d'une conférence de presse que lors de ses auditions, ils utilisaient des mots comme torture, tabassage, meurtre, esclavage, trafic et viol, non pas comme des concepts abstraits, mais comme leur propre réalité, avant de souligner que de nombreux enfants étaient tellement choqués qu'ils n'arrivaient même plus à s'exprimer.
Alors, d'autant, Eve, qu'une fois arrivés en Europe, pour ceux qui le peuvent, leur situation est encore compliquée.
Oui, parce que leur statut de mineur est parfois difficile à établir et c'est pourtant lui qui leur permettra d'accéder à la protection. Rappelons qu'il existe plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'enfant ratifiées par l'Union européenne et qui engagent celle-ci à prendre soin de ses enfants, les accueillir sur son sol. En plus, souvent ces enfants sont endettés par les frais occasionnés par leur périple, entre 1 000 et 4 000 euros environ, qui finissent dans les poches des passeurs. Les jeunes mineurs isolés sont encore plus fragilisés à leur arrivée et dans certains pays comme par exemple l'Espagne, où le nombre de migrants explose, notamment en provenance du Maroc, cela retarde encore leur prise en charge de plusieurs semaines.
D'où cet appel de l'UNICEF et de l'OMI à réformer leur prise en charge, et cela de façon urgente.
Les organisations le martèlent d'une seule voix, il faut établir des voies sûres et régulières, trouver des alternatives à la détention pour les enfants et bien sûr combattre la xénophobie, le racisme et les discriminations à l'égard des migrants. Mais aussi former le personnel aux frontières de l'UE à identifier le profil de ces jeunes en danger qui réclament une attention particulière. Plusieurs techniques, plus ou moins scientifiques, ont été mises en place dans certains pays d'Europe au fil des années afin de déterminer l'âge des jeunes migrants isolés, mais elles sont encore peu fiables et surtout très décriées. Enfin, il faut leur assurer un accès à l'eau, un accès aux soins et à l'éducation, ce qu'ils réclament. Un vœu pieux pour l'instant qui n'a pas encore fait réagir les autorités compétentes.
Et de son côté, le président français a annoncé la semaine dernière vouloir réformer le droit d'asile en France, pour tous les réfugiés donc, et pas seulement pour les jeunes, en s'inspirant de l'exemple allemand.
Oui, alors il annonce vouloir lutter contre les conditions inhumaines et dégradantes de ces nombreux migrants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui vivent dans la rue. Un nouveau projet de loi devrait être présenté d'ici le premier semestre 2018 aux députés français. Le président annonce vouloir refonder la politique française d'accueil et d'asile en profondeur pour, dit-il, renforcer le consensus républicain et éviter de nourrir les extrêmes. N'allez pas y voir forcément un signal fort comparable à celui d'Angela Merkel qui avait en début de crise migratoire ouvert les frontières de son pays, on s'en souvient, car les premières dispositions annoncées de ce projet, portées par le ministre de l'Intérieur, porteront surtout sur le retour au pays d'origine de ces migrants arrivés sur le sol français.
Merci Yves Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ces enfants-là sont bien entourés et ils vont à l'école. Ils ont fait leur rentrée le 1er septembre dernier en Lituanie, un pays qui compte 300 000 élèves désormais et où l'enseignement privé se développe à toute vitesse. On dénombre désormais 46 établissements, 5 fois plus qu'il y a 10 ans, accueillant plus de 10 000 élèves. Rien qu'à Vilnius, on dénombre 25 écoles privées contre 121 publiques. Marielle Vituro a cherché à comprendre les raisons de cet engouement pour le privé.
Les trois enfants d'Agnès et de Marius sont dans le privé depuis la maternelle. Un choix qui s'est imposé à ce couple de trentenaires aisés. Agnès se rappelle des quelques semaines que ses enfants ont passé dans un établissement public.
Toutes les décisions devaient être prises par la directrice. Avec les enfants, la maîtresse n'avait pas beaucoup de liberté pour entreprendre des projets avec les enfants. Dès la rentrée, on nous a annoncé d'un ton sans appel qu'il fallait amener du papier toilette. Dans un établissement fréquenté par des enfants, je pense qu'on peut faire les choses de manière plus respectueuse.
À l'heure de rentrer en primaire, le choix de maintenir ses enfants dans le privé a donc été vite fait pour Agnès.
L'école poursuit l'apprentissage des langues, commencé en maternelle. C'était donc logique pour nous que les enfants continuent leur scolarité dans ce système.
Il y a aujourd'hui 46 établissements scolaires privés en Lituanie. À la différence de la France, ce ne sont pas en majorité des écoles confessionnelles. Ces établissements proposent de nouvelles méthodes d'enseignement. L'apprentissage ne se fait plus par matière, mais il est intégré. Une thématique travaillée sur plusieurs semaines permet d'aborder l'histoire, les sciences naturelles ou les mathématiques. Et il se fait aussi souvent en immersion. Les langues étrangères deviennent aussi des langues d'enseignement. Ostia Landsbergene a créé Vaikystes Sodei, les jardins de l'enfance, et Karalienes Mortos Mokykla, l'école de la Reine Marthe, le plus grand réseau d'établissements privés en Lituanie. Cette diplômée en sciences de l'éducation a voulu relever un défi.
On me serinait toujours que c'était impossible de créer une telle école en Lituanie. Pour prouver le contraire, je l'ai fait. La concentration de connaissances, d'examens, de classements de niveau, ça ne convient plus aujourd'hui. Si je cherche une date historique, je la trouve maintenant en 5 minutes sur le net. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte. Par exemple, ne pas connaître par cœur la date de la Révolution française, mais savoir quel impact elle a eu sur la Lituanie, sur le monde.
Ces écoles ont un coût, environ 500 euros par mois et par enfant. Rita Orbonaite, professeure d'art et de technologie dans plusieurs collèges publics de Vilnius, comprend l'engouement des parents pour ces établissements.
Il n'y a plus de cohérence dans l'enseignement public en ce moment. On comprend au ministère la nécessité de changer les méthodes d'apprentissage, mais les réformes partent dans tous les sens et se contredisent parfois. Ce que les parents recherchent dans les écoles privées, c'est le changement. Il peut revêtir différentes formes. Chaque école privée cherche sa voie et la réalise.
Gražvydas Kazakevičius, vice-ministre de l'éducation, voit cette diversité d'un bon œil.
Si ces écoles sont créées selon une pédagogie particulière, ce ne peut être qu'une bonne chose. Cela peut créer ensuite la condition pour le développement des écoles publiques. Pour cette rentrée, nous avons lancé un projet pilote pour enseigner la programmation informatique dès la classe de CP. Il faudrait en revanche faire attention à ce que ces écoles privées ne se transforment pas en une machine à faire de l'argent.
Malgré un salaire moyen de 700 euros pour un professeur, Rita Urbonaïté, qui a enseigné dans les deux systèmes, ne changerait pas de nouveau pour repasser dans le privé. Sa matière, l'art, lui permet de mener des projets thématiques avec les autres enseignants. Elle apprécie de pouvoir initier des changements, mais c'est surtout la question du statut de l'enseignant qui l'empêche de franchir le pas.
Dans le privé, les salaires sont plus élevés, mais la somme de travail est beaucoup plus importante. Dans le public, nous avons un champ de responsabilité bien défini, alors que dans le privé, les heures sont plus nombreuses et surtout on attend du professeur qu'il fasse en permanence des miracles.
Le développement du secteur privé, s'il ne met pas en danger le public, prouve au moins une chose, l'enseignement doit être la priorité de la Lituanie. La question du vieillissement du corps enseignant doit être résolue de manière imminente, des salaires plus attractifs attireraient les jeunes. Mais surtout, un système éducatif de qualité et sa répercussion sur l'emploi seront les conditions du développement économique d'un pays saigné par l'émigration.
La ville de Vienne, en Autriche, est depuis toujours une porte d'entrée vers l'Europe du Sud-Est. Plusieurs dizaines de milliers de Croates et de Serbes vivent d'ailleurs dans l'agglomération et ils ont apporté avec eux leur tradition musicale. Laurent Gélin a ainsi rencontré les membres de la chorale du 29 novembre.
Sur des scènes alternatives, dans des salles de concerts associatives, lors de manifestations, il n'est pas rare, à Vienne, de rencontrer les membres de la chorale du 29 novembre, créée en 2009 par deux Autrichiens d'origine serbe. Ljubo vient y chanter depuis plusieurs années.
Le chœur est basé sur un principe alternatif. Tous ceux qui le veulent peuvent chanter. On ne pose pas la question « D'où viens-tu ? Qui es-tu ? » Tout le monde peut venir aux répétitions. Et puis l'autre principe, c'est de chanter dans des événements politiques.
Nommé en l'honneur de la date symbolique de la proclamation de la Yougoslavie socialiste le 29 novembre 1945, la chorale reprend d'anciennes chansons du pays disparu, mais elle chante également en allemand, en italien, en espagnol ou en rom. Pour que les fractures des guerres des années 1990 s'effacent, au moins dans la capitale autrichienne, la chorale se produit dans des manifestations revendiquant plus de droits pour les réfugiés ou lors de grèves ouvrières. Ivana travaille dans une ONG de défense de l'environnement dans le civil, mais elle vient dès que possible rejoindre les autres chanteurs.
Qui sont les gens de la chorale ? Des Autrichiens, t'as des anciens, moi je dis Yougo, voilà. Après, t'as des réfugiés que quelqu'un connaît qui sont pas depuis très longtemps à Vienne. T'as des, toutes sortes de gens qui sont un peu de gauche et qui s'intéressent à des trucs un peu artistiques, des projets artistiques.
À Vienne vivent aujourd'hui les descendants des citoyens de Yougoslavie venus travailler en Autriche dans les années 1960 et 1970. Après l'éclatement de l'État commun en 1991, la plupart des clubs culturels qui fédéraient la communauté ont été dissous, minés par les nationalismes croates ou serbes. Mais au sein de la chorale du 29 novembre, tous sont unis pour montrer qu'il y a encore des luttes pour lesquelles il est utile de se mobiliser.
Notre chef de chœur aujourd'hui, Françoise Grelot, à la réalisation. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission. À demain.